Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Moi, j'ai pas envie de distraire les gens de ce qu'ils vivent, tu vois. Au contraire, j'ai envie de dire t'inquiète, en fait, moi, je vis pareil que toi, tu sais. Et c'est pas parce que tu me vois sur des plateaux maquillés ou sur des tapis rouges en robe à je sais pas combien que. À la seconde où tu me vois en fait en robe de je sais pas quelle marque de ouf avec des bijoux et des talons de malade, en fait, au moment où j'ai fini de monter les marches ou au moment où je monte dans l'ascenseur de l'hôtel de luxe, il y a quelqu'un qui me regarde de la tête aux pieds et qui dit texto, ah, je savais pas qu'il y avait des kebabs en haut. Texto, genre.
Dans cet épisode, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une chanteuse et comédienne que j'aime énormément, c'est Camélia Jordana. Elle s'est fait connaître il y a 1000 vies au moins dans La Nouvelle Star et depuis, elle a enchaîné les disques, les films et les prix, notamment une Victoire de la Musique et un César. Là, elle vient tout juste de sortir une réédition de son sublime album Facile Fragile que j'ai poncé. Vraiment, j'ai tellement écouté ce disque parce qu'il le représente pour moi tout ce que j'aime chez Camélia Jordana. En fait, il y a le talent de mélodiste, de chanteuse, évidemment, que ce soit dans un style très pop ou beaucoup plus intimiste sur certains morceaux. Mais on y retrouve aussi et surtout ses engagements sociaux et politiques et sa capacité à dire des choses qui sont dures, qui sont douloureuses, tout en apportant quand même de la beauté et de la lumière. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc, je suis vraiment très heureuse qu'on ait pu passer un moment ensemble. On a parlé de pas mal de choses, de sa vie assez folle, de ses nouvelles envies musicales et du tournant artistique où elle se trouve actuellement, de changer de classe sociale et du fait qu'un jour elle fera un album d'électro-acide bien vénère. J'espère que ça vous plaira. C'est un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent ?
Oui.
Évidemment, bah, j'ai tiqué sur la phrase « si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes ». Elle vient d'où cette phrase ?
En fait, Facile, c'est ouf parce que cette chanson, elle a touché plein de gens, mais pour des raisons hyper différentes. Il y en a qui pensaient que c'était une chanson pour les enfants d'immigrés, il y en a qui pensaient que c'était une chanson féministe, il y en a qui pensaient que c'était une chanson d'amour. Genre, plein de gens se sont dit tellement de choses, ce qui est génial avec la musique quand même. Et je pense qu'elle est juste venue de l'intérieur, quoi. Que moi, j'étais dans une vibe à ce moment-là. Après, j'ai des doutes tout le temps, tu vois, mais là, particulièrement, c'était une période de doute pour moi. Le moment où j'ai écrit la chanson.
Pourquoi ?
Parce que je venais changer d'équipe, j'étais dans une relation qui allait de plus en plus mal, c'était peu de temps avant que je me sépare. Enfin, j'étais vraiment, j'avais plus trop de racines, quoi. J'étais plus trop ancrée, plus trop centrée, et du coup, je remettais tout en question. Tu sais, c'est juste avant d'enlever la bande, quoi. T'es là, tu comptes, tu dis, attends, peut-être je peux tenir, ouais, mais plus je l'enlève, plus j'attends, plus ça va faire mal. Donc en fait, entre-temps, c'est en train de sécher, il faut que je me grouille et tout. Bah là, j'étais un peu dans cette période-là, et où t'es en train de te prendre tous tes doutes en pleine figure, et tu dis, non, 2 secondes, pas tous en même temps.
Et toi, quand t'as ça, t'écris des chansons.
Ouais, c'est vraiment, ça me sauve.
Ah ouais, mais ça enlève le poids, ou juste l'exprimer, c'est une façon d'un peu mieux le comprendre et l'appréhender?
Je pense que ça enlève le poids parce que les chansons ne me permettent pas de comprendre, moi.
Ah ouais ?
Les chansons que moi je fais, elles ne me permettent pas de comprendre. Non, parce que ce que je mets dans les chansons, c'est ce que j'ai déjà digéré.
Ah, donc il y a toujours 2-3 ans de délai sur...
Ouais, je pense, parce que... Enfin, parfois, ça peut être très spontané. Et du coup, c'est marrant de voir aussi en écriture automatique ce que tu sors des fois. Et t'es genre, intéressant celle-là, tu vois. Mais généralement, ce que je garde, c'est des choses que je trouve belles à chanter et à dire. Après, j'ai quand même envie de raconter une chose qui est proche de ce que je ressens, tu vois. Je vais pas chanter l'opposé de ce que je crois, juste pour, parce que je trouve ça beau, quoi. Mais ouais, quand même, je pense que c'est plutôt digéré, ouais.
Et t'as quel rapport au doute? J'ai l'impression qu'il y a ce truc, tu vois, où tu le montres et en même temps, tu t'es obligé, je pense, dans ce métier, de montrer beaucoup d'assurance, sinon tu te fais bouffer très fort, quoi.
Ouais, je garde tous mes doutes à la maison. Sauf les personnes en qui j'ai extrêmement confiance, tu vois, mais pour moi, du coup, c'est la maison. Mais à partir du moment où je sors de chez moi, de mon espace et de mon intimité... Ouais, je peux pas du tout montrer les doutes. En fait, je suis tellement à un endroit fragile que je suis obligée d'avoir une citadelle tout autour. Et à tel point que j'en viens à y croire moi aussi, du coup, tu vois, à ce que j'avance et ce que j'affirme. Mais parce que c'est maturé en amont aussi, tu vois, justement. Je me pose plein de questions, j'ai plein de doutes. Et une fois que je me suis documentée, que j'ai réfléchi, que je me suis trompée, que je suis revenue dessus et tout ça... J'essaie d'avoir une position que je tiens. Et à part, justement, les gens de la maison, l'extérieur... parfois, je peux être surprise, évidemment, et me faire choper en plein vol par l'extérieur et me dire « Ah putain, mais regarde, là, en fait, on t'a fait déplacer, tu t'en es même pas rendu compte et c'est pour le mieux. » Pas toujours. Mais généralement, c'est plutôt les gens de l'intérieur qui sont susceptibles de me faire bouger, ouais.
Et dans ta musique, dans ce que tu crées, le doute, il a quelle place? Est-ce que des fois, tu fais quelque chose et tu dis ça? Je sais que j'en suis fière et je peux le défendre pendant des années. Ou est-ce que des fois tu dis ça, je n'ai aucune idée de ce que j'en pense?
De moins en moins.
Ah ouais?
Je pense avec le temps. Quand j'étais plus jeune, ouais, j'étais vraiment en me disant mais qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train de kiffer, mais en vrai, demain, si je le fais écouter à telle personne, plus telle personne, est-ce que je l'assume toujours autant? Et est-ce que ça me fait toujours autant kiffer, tu vois?
Tu prenais moins de décisions, tu prenais moins toutes les décisions toi-même aussi à l'époque.
Oui, oui, mais du coup, c'était d'autant plus délicat parce que c'était des décisions que j'allais devoir assumer seule, publiquement, en mon nom et avec ma tête. Et du coup, ouais, je pense que ça m'a pris du temps, mais je continue évidemment de douter, tu vois. Quand je crée des choses, là en plus, je suis à un tournant artistique où vraiment dans mon travail, je suis en train de me dire, mais en fait... Genre, est-ce que j'assume concrètement d'avoir envie de raconter ça et de cette manière-là, avec ce son-là, et de moi, en mon nom, sortir cette musique-là, là, vraiment? Ou, non, concrètement, c'est un peu loin, quand même, de soit de ce que j'ai envie de faire, soit de ce que j'ai fait, soit de celle que je suis. Ou est-ce que, justement, c'est... En fait, la question de l'identité, tu vois, elle est mouvante, elle aussi, donc je me dis tout le temps, mais est-ce que, finalement, c'est pas ça, moi, aujourd'hui, tu vois? Même si c'est si loin...
Et de pourquoi, tout ce que ça a pu être. Pourquoi t'as un tournant là? Enfin, qu'est-ce que t'as genre composé de nouvelles choses qui sont loin de ce que t'as pu proposer avant?
Okay. En fait, j'ai des envies différentes, très très différentes de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Peut-être que les gens ils vont dire non, c'est logique, c'est la suite logique. Et peut-être qu'en fait ça le sera, je sais pas, tu vois. Mais aujourd'hui, je le vis comme un vrai tournant. D'abord parce que j'ai envie de produire seule ma musique. Et en plus parce que, enfin de produire, d'arranger, parce que je produis déjà ma musique, mais là j'ai envie de, je suis déjà ma propre productrice, mais là j'ai envie d'être seule derrière mon ordi, mes claviers et de faire ma musique. Mais aussi en termes de couleur et de genre, tu vois, j'ai envie d'assumer des choses que j'ai jamais assumées jusqu'à maintenant.
Du coup, maintenant je t'imagine faire de la techno et tout.
Mon rêve. Tu sais que j'ai fait une liste des albums que je voulais faire, elle est longue comme mon bras, tu sais,
ah ouais,
avec que des genres différents à chaque fois. Et à chaque fois je dis, un jour je ferai un album comme ça. On me fait genre, yes. Non, je te jure, j'ai trop envie de faire plein de choses, moi. Un jour, je ferai un album folk. Un jour, je ferai un album que a cappella. Un jour, je ferai un album jazz. Un jour, je ferai un album électro-acide vénère. Je te jure. En fait, on croit pas comme ça. Un jour, je ferai un album de rap aussi. Peut-être un jour, je vais faire un album qui sera un mélange de tout ça. Je sais pas, tu vois. Mais je sais que j'ai vraiment envie d'aller diguer et d'exploiter vraiment chacun de ces genres-là. Parce que c'est des trucs que j'aime trop écouter et que j'aime trop faire, quoi.
Et maintenant, comment tu te situes vis-à-vis de la vie des gens? Parce que t'as fait des albums qui étaient un peu plus confidentiels, on va dire, parce que vraiment, tu t'es écouté totalement. Par exemple, après Lost, comment tu t'es sentie? Est-ce qu'il y avait un peu de déception? Ou est-ce que tu disais, quoi qu'il arrive, même si le processus a été un peu douloureux, je suis allée au bout de ce que je voulais faire?
Il m'a fallu du temps pour en arriver là.
Ah ouais?
Ouais. Oui, parce que en fait, quand pendant 4 ans tu te bats matin, midi et soir et qu'on te manque de respect partout, dans tout ce que t'es, parce que la seule chose qui a marqué sur ton visage, c'est que tu rapportes pas d'argent et que t'en fais perdre. ben du coup ta vie elle est pas marrante quoi. Et après j'ai vécu des choses sublimes grâce à cet album et je regrette absolument pas de l'avoir fait. En fait quand je le réécoute je suis hyper fière, je pense que c'est peut-être mon meilleur album. Mmh. Et enfin j'adore chacun de mes albums, tu vois, mais je sais pas, en fait le fait de l'avoir fait pour moi, ça fait que j'ai fait vraiment aucune concession du début à la fin. Et je sais pas si je le referais en allant aussi loin. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'ai envie de faire un album en pensant aux gens et en pensant à la scène. Mmh. C'est la première fois que je pense à un album comme ça aussi.
Ah ouais,
ouais. Bah, Lost, c'était vraiment un cri du cœur salvateur. Enfin, j'allais vraiment mal, quoi. Et j'avais besoin de mettre de la lumière sur tous les sujets que j'évoque dans l'album. Pour tenir, quoi, tu vois, mais c'était une période vraiment difficile. C'était vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur. C'était le début de l'islamophobie permanente, quoi, tu vois. Mmh. C'était pas juste, oups, on a dit un truc raciste, c'est gênant. Non, c'était le début de. En fait, vous avez pas votre place et vous êtes pas chez vous, quoi. Mmh. Mais c'était le début de décomplexer, assumer, public, quotidien. Sans problème. Donc c'était dur pour moi à vivre en me disant. En fait, si tu veux, c'était étrange pour moi parce qu'en plus j'étais très whitewash, tu vois. J'étais très genre, je me lisse les cheveux, je parle comme il faut, je suis dans tous les codes. Du coup, j'ai accès à un endroit auquel a priori les gens qui sont censés me ressembler n'ont pas accès, tu vois. Et du coup, le fait d'être là, ça faisait que tu sais, c'est un peu comme quand t'es avec un mec toxique et qu'en fait. Ou que t'es avec un mec beaucoup plus vieux et que t'es pas déconstruite ce que j'ai été, tu vois, pas déconstruite et avec des mecs plus vieux. Et où en fait, la société patriarcale est telle que dans ta tête, tu te dis, mais du coup, j'ai tellement de valeur parce que je suis avec ce mec-là, tu vois. Bah là, c'était pareil, en fait. C'était, du coup, je me disais, putain, mais j'ai une valeur de dingue, j'ai réussi à infiltrer inconsciemment, évidemment, tout ça, tu vois. Mais je pense qu'il y avait une partie de moi qui se disait, putain, j'ai réussi à infiltrer cet espace-là. Et donc, bah, quand t'es à un endroit où. Où normalement t'as pas le droit d'aller, t'as pas le droit d'être et t'as pas le droit d'y accéder, bah c'est hyper valorisant pour ton ego et pour tu vois, de te dire putain ça y est, j'ai accès à cet endroit, quoi. Donc tu vois même pas où est le problème. Donc si tu veux, comme j'étais à cet endroit là et j'insiste vraiment tout ça de manière, je pense, très inconsciente, c'est des choses dont je prends conscience là très récemment avec le temps, parce que je travaille beaucoup maintenant sur la question de mon identité et tout. Mais à l'époque, en fait, inconsciemment, le fait d'avoir accès à cet endroit-là, et que, en fait, du jour au lendemain, je sois dans la team des malvenus, que ce soit hyper prononcé, si tu veux, j'ai senti la différence. Et j'ai, tu vois, le racisme, j'ai toujours connu. Enfin, c'est pas parce que j'avais les cheveux lissés que j'avais plus trop racisme, comme tout le monde. Enfin, comme toutes les personnes racisées. Mais si tu veux, c'était moins frontal. Et donc, Lost, c'était vraiment... ce truc-là, quoi, ce moment de prise de conscience, en fait, de l'image que tu renvoies aux gens en tant que femme et en tant que personne racisée, ouais.
Je sais pas si t'as vu, il y a Raphaël Quenard qui était dans Click il y a quelques temps, et il a eu une réflexion hyper intéressante sur le fait que...
Salut, ici la Fanny du montage. Je vous mets un court extrait de ce dont je parle parce que j'ai très très mal expliqué.
Ouais, moi j'ai un collègue qui m'a dit un truc, il m'a dit une phrase, il m'a dit « Tu te rends compte que vos préoccupations, elles sont insolemment culturelles ?» Et quand il m'a dit ça, ça m'a un peu foudroyé le cerveau, parce qu'il a raison, tu vois, ça fait partie... Déjà, on sert à divertir, donc peut-être possiblement à anesthésier quelque peu pour maintenir dans l'inaction des gens qui pourraient par ailleurs vouloir manifester des mécontentements justifiés. Et donc le fait qu'on soit préoccupé par le fait de ce besoin de divertissement et tout, déjà, il nous définit en tant que privilégiés d'une certaine façon, de par la simple préoccupation.
Je pense que ça dépend de ce que tu racontes dans ton art, quand même, non ?
Je sais pas. Toi, j'ai lu dans l'interview que tu disais que l'idée de divertir, ça te plaisait pas du tout.
Bah, moi, je préfère... Enfin, j'ai toujours voulu, gamine, je me disais, ok, je serais performeur, tu vois, je ferais de la scène.
Ah ouais ?
Ouais. Enfin, tu vois, moi, quand j'étais gamine, on faisait des réunions familiales, j'organisais des spectacles, je mettais en scène. Il y avait des dérapages avec des landaus, avec mes cousins qui faisaient des vieilles dames, et on mettait du déodorant pour faire le dérapage. Enfin, tu vois, c'était genre n'importe quoi. Mais, enfin, oui, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu être sur scène et faire de l'art et exprimer des choses avec mon corps, avec ma voix, avec des mots et tout. le divertissement, c'est quand même un concept, quoi. Après, entertainer, enfin, c'est le même principe que le divertissement, mais t'as quand même, je veux dire, il y a des artistes qui ont pour démarche uniquement de distraire les gens, en fait. C'est la question. Dans le divertissement, ouais, en fait, moi, c'est la notion de distraire qui me dérange.
C'est divertir et distraire, c'est deux choses, en fait, assez...
Ouais, et en fait, distraire, ça me dérange parce que moi, j'ai pas envie de distraire les gens de ce qu'ils vivent, tu vois. Mm. Au contraire, j'ai envie de dire, t'inquiète, en fait, moi, je vis pareil que toi, tu sais. Mm. Et c'est pas parce que tu me vois sur des plateaux maquillés ou sur des tapis rouges en robe à je sais pas combien que en fait, même à la seconde où tu me vois en fait en robe de je sais pas quelle marque de ouf avec des bijoux et des talons de malade, en fait, au moment où j'ai fini de monter les marches ou au moment où je monte dans l'ascenseur de l'hôtel de luxe, il y a quelqu'un qui me regarde de la tête aux pieds et qui dit texto, ah, je savais pas qu'il y avait des kebabs en haut. Texto, genre. Mais j'ai pas envie de distraire les gens de ça. J'ai pas envie de dire aux gens, vas-y, pense à autre chose et libère-toi l'esprit, tu vois. J'ai envie qu'on se retrouve ensemble et que d'abord, en fait, d'abord, on pleure ensemble, d'abord, on se raconte nos galères, et après, on met de la lumière dessus pour pouvoir finir en jumpant tous ensemble et en étant heureux et heureuses. Mais arriver direct en disant, vas-y, jump et oublie tout, non. Je trouve pas que ça marche, moi, d'oublier les choses, en fait. Je trouve que ce qui marche, c'est de les regarder en face, de les affronter, de dealer avec, de mettre des mots dessus, de les exprimer, de réfléchir à comment tu te sens par rapport à elles. Et du coup, après, tu peux te sentir mieux. Mais en fait, vivre des trucs trash et te dire non, ça va, c'est cool, t'inquiète, viens, on saute en l'air. Non, moi, ça marche pas avec
toi. Toi, c'est pas le déni, ta technique.
Non, ça marche pas du tout. Si je fais ça, je finis par me faire mal, en fait. Donc, ça sert à rien. Même physiquement, je veux dire, vraiment. Donc, non, ça marche pas.
Ok. Là, t'as sorti la réédition de ton album. Il y avait déjà 20 chansons. Il y en a 10 de plus.
Jusqu'où tu vas aller?
Mais ouais. Bon. T'en avais combien déjà 40. Au moment 40.
Au moment de sortir l'album, j'en avais 40.
Donc ça veut dire que sur 40, il y en avait 30 qui étaient bonnes au point que tu veuilles les sortir. C'est énorme.
Ouais, c'est cool. J'avoue, c'est assez cool. Non, mais il y en avait 40. Non, il y en avait 40 que je voulais sortir.
Ah ouais?
Ouais. En fait, il y en avait 40 que je voulais sortir. Et on m'a dit, mais si tu sors 40 chansons, les gens vont jamais écouter 40 chansons d'un coup. Donc, en fait, tes chansons, tu vas juste les jeter.
Ouais.
Donc, sortons. De toute façon, j'avais déjà l'idée du double album de Facile Fragile. Et en fait, on m'a dit, mais fais un double album avec 10 chansons de chaque côté. Tu gardes tes 20 chansons et tu fais une réédition plus tard. Parce que sinon, les gens, en fait, tu vas vraiment jeter tes chansons à la poubelle. Donc, j'ai suivi ce conseil. Et puis, j'ai fini par sortir cette réédition parce que aussi, déjà, tu vois, c'était pas plus mal parce qu'avec le temps, il y a plein de chansons que j'avais beaucoup moins envie de sortir. Même si j'aurais pu les sortir, j'avoue. Mais je les trouvais moins essentielles, tu vois. Je les trouvais cool et je les aimais, mais j'étais pas dans la même vibe que pour les 10 qui sont sortis, tu vois. Où je me disais, non, elles doivent sortir quoi qu'il arrive. Et ces 10 chansons-là, en fait, comme elles ont été faites à cette époque-là, je pouvais pas les décorréler de cet album, tu vois. C'était insensé pour moi. C'est comme si tu disais, bah vas-y, là, tu sortais 30 premières minutes, puis les 15, tu les sors 8 mois après, tu vois. T'es genre, bah... En fait, c'était la même conversation, donc non.
Ouais. mais du coup, t'écris blindé.
Ouais, j'écris beaucoup. Je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances.
Mais c'est J'adorais. Quoi une séance pour toi ?
Une séance, c'est une séance de studio où tu retrouves des gens en studio, ou alors je me retrouve seule face à mon piano et je fais une chanson, tu vois. Il y a eu une période où c'était obsessionnel, je pouvais faire genre 3 séances par jour, quoi.
All right.
Ouais, non, j'aime trop. Franchement, j'aime trop, c'est mon jeu préféré, faire des chansons. J'aime trop.
Et c'est trop marrant. J'ai lu que tu disais que t'adorais l'idée que en permanence tu puisses créer quelque chose qui n'existait pas encore.
Mmh.
Et c'est pas une pression énorme. Des fois tu te dis pas, ah, vas-y, là j'ai la flemme, mais peut-être je rate à côté d'un truc qui aurait été tellement chouette.
De me mettre la pression de ne pas aller au bout du process créatif, quoi.
Si à un moment tu dis, vas-y, là non, je prends mon jour off, je sais pas.
Bah, déjà, je prends pas de jour off.
Nickel. c'est ça la solution. Ouais.
Déjà, j'avoue, je prends pas de jour off, donc j'ai pas cette pression-là. Et les rares fois. Enfin, je te dis ça en même temps, je bullshit un peu parce que j'ai eu un mois de vacances cet été.
Oh là là, madame.
Bah, c'est énorme, hein, moi. En vrai, c'est une dinguerie. Je devais faire un film qui finalement n'a pas été financé. Donc, au lieu d'une semaine, je me suis retrouvée.
C'est pas des vacances, c'est juste.
Bah, au lieu d'une semaine de vacances, je me suis retrouvée avec un mois, ce qui était cool. Et non, les rares fois où je suis off. En fait, quand je suis off, si je suis chez moi, je vais kiffer faire une chanson, tu vois. Mm. C'est trop précieux comme temps pour moi. Mais j'apprends de plus en plus à lâcher prise. Genre, tu vois, si je suis épuisée, je me dis, en fait, là, si tu fais un truc, tu vas faire mal. Donc, fais pas. Mmh. Tu vois. Dors, appelle une pote, regarde un documentaire animalier. Et demain, ça a l'air mieux, tu vois.
Et t'as jamais... Enfin, tu vis quand ?
Bah, en fait, moi, c'est ça, ma vie. Moi, c'est vraiment ça, ma vie, quoi. J'ai la chance d'avoir... un entourage exceptionnel parce que déjà c'est des gens formidables, vraiment ce sont des personnes, j'ai beaucoup de chance quoi, parce que je suis pas sûre que beaucoup de gens aient cette chance là dans la vie que de rencontrer des êtres aussi bons, et en plus de ça ce sont des personnes qui comprennent mon mode de vie, donc en fait on peut genre pas se donner de nouvelles pendant un mois et demi, et au moment où on s'appelle, on va passer 2 heures au téléphone en FaceTime dans nos lits chacune ou chacun, et se raconter nos lives, rire, pleurer, résoudre des trucs de nos vies sans s'en rendre compte, et 4 secondes après, vas-y, on repart pour la guerre et on se donne des conseils sur nos vies folles, et on s'envoie juste un bisou quand on rentre dans un train ou qu'on part, je sais pas où, tu vois, mais c'est vraiment des modes de vie en fait, c'est vraiment ça nos vies quoi.
Donc t'as jamais de frustration de « Ah là, j'ai envie de prendre du temps pour recharger des choses, pour vivre des trucs, pour faire les passes à la spontanéité, quoi. » Parce que je pense que tu dois avoir une vie hyper... tout est hyper cadré.
Ben, en fait, mon planning, il est cadré. Mais ce qu'il y a dedans, étant donné que je suis ma propre matrone, je suis libre d'en faire ce que je veux, tu vois. Mmh. Genre là, je suis libre de te raconter ce que je veux. En vrai, je peux m'inventer à chaque fois, tu vois. Là, juste avant, j'étais chez Culture Box, je fais un piano-voix... Je suis là pour chanter, tu vois. Je rencontre la horde, c'est trop beau. Et ce soir, je vais au concert de Benjamin Clémentine à Pleyel. C'est trop beau. Enfin, tu vois, c'est que des moments de ouf, en fait, à chaque fois. Après, c'est énormément de travail, c'est difficile. Parfois, il y a des trucs archi relous que j'ai pas du tout envie de faire. Mais comme tout le monde, dans tous les métiers, tu vois. Je veux dire, franchement, le monde va tellement mal et les gens de notre pays galèrent tellement à bouffer que... Tu vois, moi, je suis bénie. Genre, je vais à des fashion shows, je fais des concerts et je tourne dans des films. Enfin, tu vois, je peux ne pas dormir, ça va, quoi. Mon frigo, il est plein, j'ai un appart que je kiffe dans le marais. Enfin, ma vie, elle est bien, tu vois. Vraiment. En fait, après, je sais pas si c'est aussi le fait d'avoir une origine sociale qui est pas celle dans laquelle je vis, tu vois. Et mes parents eux-mêmes ne vivent pas dans leur propre origine sociale. Et leurs parents à eux, pareil. Donc, je pense que c'est aussi, tu vois, le fait d'avoir grandi... Moi, j'ai grandi dans une maison, et quand j'allais voir mes grands-parents, c'était dans une cité HLM dans laquelle ont grandi mes parents, et mes oncles et tantes et tout. Donc, je pense que le fait de voir autre chose que son mode de vie depuis petite... Enfin, le fait de venir d'ailleurs, en fait, même si moi, j'ai eu vraiment aucun besoin matériel, tu vois, j'ai été hyper... hyper choyé à cet endroit-là, tu vois, mes parents, ils sont plutôt dans un milieu social middle class. Mon père et ma mère ont monté leur entreprise, ils avaient rien, tu vois, ils ont commencé en faisant des ménages et de la mécanique, et petit à petit, ils ont monté leur entreprise, ils ont grandi au fur et à mesure pour pouvoir nous donner toutes les chances possibles. Et puis avec ma sœur, on était des petits singes savants qui devaient faire tout ce que eux n'avaient pas pu faire, tu vois. Donc vraiment, nous, on a été très privilégiés par rapport à eux. Mais je veux dire que, bah, voilà, je vivais, je traversais en fait, je passais de milieux sociaux en milieux sociaux tous différents les uns des autres, quoi. J'allais au conservatoire avec que des blancs cathos dans le sud, pour une partie d'entre eux fachos qui me regardaient de travers parce que j'étais la seule arabe dans son coin, tu vois, au conservatoire. Et en même temps, bah, mes réunions familiales, c'était à la Poncette, à la Valette. Et c'était une autre vibe, quoi. Donc, et en même temps, je rentrais chez moi et j'étais dans une maison avec une piscine, tu vois. Donc c'était vraiment hyper riche. Donc je pense que le fait d'être dans un... Ouais, de traverser comme ça des milieux sociaux différents, ça fait aussi que bah, en fait, j'ai la dalle, quoi. Non, mais c'est vrai, je te jure, en fait, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, quoi. Enfin, ça fait que, tu vois, ma mère, elle a pas pu faire de la musique, quoi. C'était le rêve de sa vie, genre.
Et toi tu fais 40 chansons pour un album.
Tu vois. En fait, partant de là, ça va, il peut ne pas y avoir de jour off, quoi. Alors, il y en a en plus de temps en temps, tu vois, mais c'est pas grave, quoi. Vraiment.
Ok. Attends, je vérifie pour pas te mettre en retard. Ok, 30 minutes. Tu disais de tu veux produire ta musique et tout, et j'ai l'impression qu'au fil des albums t'es de plus en plus indépendante sur tous les niveaux, ce qui fait que maintenant t'es un, je suppose que t'es un peu obligée de prendre des décisions aussi qui n'ont rien d'artistique. Et comment tu fais pour parce que des fois les intérêts d'une carrière vont à l'encontre des intérêts artistiques, et comment tu fais pour ne pas te perdre là-dedans?
Bah il y a des moments où je laisse mon cerveau d'artiste à la maison, je pars en rendez-vous et je suis une bancaire, quoi. Et je parle de moi comme d'un t-shirt. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir être libre artistiquement. Tu vois. C'est qu'en fait... Là, j'ai une nouvelle équipe aussi, donc je pense que je vais avoir un petit peu moins besoin de le faire, mais j'aurai quand même cette conscience-là et cette responsabilité-là. Peut-être que je devrais le faire un peu moins en mon nom directement, tu vois. Même si je vais devoir continuer à le faire quand même, mais moins, je pense. Mais en tout cas, ouais, non, c'est un... C'est les premières fois c'était assez violent, tu vois, parce que je me disais putain, mais en fait enfin les mecs me disent directement en plein visage que je suis un paquet de Kit Kat, enfin vraiment, genre c'est ça le deal, quoi. On parle là-dessus, le truc pour lequel toi tu t'es barré à 16 ans de chez tes parents, pour lequel tu sais tu t'es battu pendant des années, parce qu'en plus souvent les gens ils ont l'image de moi de nouvelle star, direct j'ai fait mon album, bam, cinéma, ça y est, c'est parti. Mais en vrai, genre, j'ai galéré de ouf aussi, même si ça s'est pas fait dans le même sens que la majorité des gens quand ils veulent travailler, tu vois.
Comment t'as galéré alors?
Bah en fait, moi pour mon deuxième album, je suis partie en studio pour faire des musiques et on m'a pas calculé pendant 8 mois, ce qui fait que la sortie de mon album elle a été décalée, ma tournée elle a été décalée, mon intermittence a été décalée.
Mais c'est quoi ça, ils t'ont pas calculé?
Bah mes partenaires, ce qui fait que du coup je me suis retrouvée genre en vraie galère de tout, genre de thunes, de projets, de taf, de tout, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que en fait il y a un moment où pour te préserver artistiquement t'es obligé de prendre en compte les desiderata de l'industrie, quoi. Parce que si tu les prends pas en compte, tu te retrouves à la dèche, en fait. Je pense qu'il y a des concessions à faire, que tu le veuilles ou non, d'autant plus si tu veux être productrice. Moi, j'ai la chance d'être productrice et du coup, pour pouvoir gagner ma vie, je suis obligée de mettre ma casquette à un moment de businesswoman et de, ouais, je te dis de parler de moi comme ça. Mais c'est le prix à payer pour et apprendre, parce qu'il y a des choses à apprendre en permanence, que ça fait qu'un album que je suis ma propre productrice, même si je le faisais déjà avant sans en avoir le titre à certains, enfin, à beaucoup d'endroits, mais toujours est-il que je sais comment mener ma barque, mais en plus c'est une industrie qui est mobile tout le temps et c'est important, je trouve, d'être accompagnée aussi pour pas être seule, parce que un, sinon tu deviens ouf, et deux, tu peux vraiment facilement prendre de mauvaises décisions, et si t'as pas les bons partenaires, c'est chaud, tu vois. Donc je suis loin de dire que je suis autonome, indépendante et que j'ai besoin de personne, pas du tout, et j'adore avoir d'autres idées et pouvoir débattre pendant des heures et prendre une décision sur laquelle, tu vois, j'ai douté pendant un moment. Mais en tout cas, ouais, au début c'était difficile parce que c'était violent, et avec le temps j'ai réalisé qu'en fait c'était nécessaire, et donc j'ai appris à en prendre mon parti et à savoir, en fait c'est comme tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est apprendre les règles du jeu, en fait. Au début ça fait mal, t'es genre waouh, en fait ma vie elle est réduite à ça, genre elle dépend vraiment de ces deux pauvres éléments qui n'ont rien à voir avec ce que je crée, ce que je fais, j'invente, je rêve, je compose, je souhaite, rien à voir, en fait, rien, c'est de l'argent, en fait, la question, c'est juste ça. Et du coup, te dire, ok, bon, tu sais quoi, de toute façon, c'est ça la règle, tu peux pas y changer grand-chose, tous tes potes artistes, vous êtes toutes et tous dans la même situation, vous êtes toutes et tous en dépression, vous êtes toutes et tous en galère. Donc en fait, tu vas dealer avec les choses, tu vas te calmer, tu vas réfléchir et tu vas apprendre à justement te servir de toutes ces règles-là et de tous ces outils maintenant que tu les as en main pour pouvoir quand même arriver à tes fins artistiquement, quoi.
Mais il y a quelque chose de grisant quand même, une fois que tu maîtrises les règles et que tu vois que tu peux toi-même...
Mais c'est quand même énergivore, hein. C'est quand même énergivore, et c'est de la... En effet, oui, parce que tu te dis, ah, je suis un peu fière de mon coup sur celle-là, tu vois. Genre, celle-là, tu l'auras pas eu, en fait. Mais vraiment, ça m'est arrivé récemment encore, et je me dis, putain, mais en fait, non, quoi. Celle-là, ça y est, j'ai progressé, tu vois. Genre, en fait, non seulement je me fais respecter, mais en plus, en termes de business, c'est moi qui te montre que tu te trompes, en fait. Et c'est moi qui ressors vainqueur du truc, pas vainqueur, comment on pourrait dire, vainqueuse.
On peut dire vainqueuse hein, si tu veux.
Ok, vainqueuse. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant, ce que tu te dis, genre. En plus, ce qui est encore plus savoureux, c'est quand tu le fais sans même t'en rendre compte. T'es genre, bon, là, en fait, je dois juste trouver une solution, donc je fais comme ça. Mmh. Et à la fin, t'es genre, mais du coup, j'ai trop géré, là, en fait, le dos. Je vous ai tous mis à l'amende et j'ai trop géré ma manœuvre, tu vois, sans t'en rendre compte, quoi. Mmh. Donc, c'est cool. Ça veut dire que t'as des automatismes qui rentrent et qui sont cool. D'autant plus quand, à la base, ça part juste de l'intention de sauver ton truc, sauver ton projet, sauver, tu vois. Mais c'est vrai que c'est périlleux, quoi. T'es sur des œufs. Et puis, c'est important aussi, après, d'être reconnaissante, je pense, envers les personnes avec lesquelles tu bosses, les personnes qui t'accompagnent, qui te lâchent pas, qui te soutiennent. Et ça, c'est aussi hyper important, quoi.
C'est un milieu, la musique, moins que le cinéma, mais où t'es quand même vachement dépendante de la vie et du désir des autres. Là où le cinéma, tu l'es complètement, parce que tu peux pas juste être actrice toute seule dans ton coin. C'est pour ça que tu gardes les deux, ou est-ce que tu pourrais n'en faire qu'un seul ?
Non. Non, je pourrais pas en faire qu'un seul, j'aime trop les deux. Je continue la musique parce que j'aime trop ça, c'est l'amour de ma vie, la musique, c'est spirituel, quoi. C'est sacré, en fait. C'est sacré.
Et le cinéma, ça t'apporte quoi ? Parce que la musique, c'est très fort être soi-même, et le cinéma, c'est l'inverse.
Très fort être quelqu'un d'autre. Bah, c'est ça que ça m'apporte, justement. C'est de pas être moi pendant un temps, et c'est très reposant. Et puis, l'air de rien, en fait, les tournages, ça peut être bien trash en fonction des gens avec lesquels tu travailles. Ça peut être trash en fonction des conditions, en fonction des budgets avec lesquels tu peux créer des choses. Et donc, parfois, c'est système, même plus D, mais Z. Et c'est des conditions trash. Il y a des fois où c'est archi confortable et tout, et des fois, pas du tout. Mais en tout cas, il y a un endroit où c'est confortable pour moi, c'est qu'il y a des horaires et des week-ends.
Ouais.
Donc souvent, ça, il se trouve que du coup, ça fait des soirées, des week-ends pris pour autre chose. Mmh. Mais ça m'apporte un cadre, en fait, que j'ai pas du tout... quand je suis pas en tournage, que ce soit pour la musique, la mode, tu vois.
Ah ouais, tu fais tout.
Bah, en fait, la musique, t'as pas de règles, tu vois. Tu vois, là, on est entre midi et deux. On n'a pas déjeuné. Je sais pas si t'as déjeuné avant de venir. Moi, j'ai pas déjeuné. J'ai encore des rendez-vous toute la journée. Donc, en fait, je sais qu'aujourd'hui, je vais pas manger. Bah, là, par exemple, c'est la musique. On fait de la promo. On a un peu de retard. On fait ci, on fait ça. Y a pas de cadre, tu vois. Mmh. Une équipe technique, tu peux pas mettre une heure de retard dans la vue aux gens. Sinon, tu les payes,
ouais,
en fait.
D'accord, okay.
C'est tellement plus structuré. Ça implique tellement plus de thunes que, en fait, tu peux pas faire ce que tu veux sur un plateau, quoi. T'es obligé de respecter des horaires, et après tu peux le faire, tu vois, quand tu fais un tournage, tu prévois un nombre d'heures supplémentaires, mais pour l'ensemble du tournage, donc tu vois plus ou moins comment tu gères ton dispatchage d'heures sup et tout, mais non, c'est quand même, c'est tellement plus structuré, en fait. Un tournage, c'est l'armée, quoi. C'est hyper hiérarchisé. Il y a la loi, en fait, qui entre en jeu. Alors, elle n'est pas toujours respectée, mais elle est là. Elle existe, en tout cas. Mmh. Là où, en musique, c'est un niveau de freestyle, mais laisse tomber. C'est une industrie qui est pas du... Tu vois, les artistes, on est... Je connais pas d'artistes syndiqués, moi. Je crois que j'en connais genre deux.
Ah, je savais même pas qu'il y avait des syndicats.
Bah voilà, tu vois.
Ok.
Non, c'est une ambiance, il y a encore beaucoup de choses à faire. Après, c'est génial. Je sais qu'il y a plein d'artistes qui se mobilisent, plein d'organismes, plein de collectifs et tout qui s'organisent pour protéger les artistes, la manière dont les choses sont structurées, comment... Il y a plein de gens qui se mobilisent sur comment protéger les artistes via les contrats, etc. Mais c'est encore vraiment au début, tu vois. C'est, Donc non, les tournages, c'est plutôt reposant, du coup.
C'est quoi le rôle de tes rêves ?
J'en ai deux. J'adorerais jouer une personne malade psychiatriquement.
Ok.
Et j'aimerais beaucoup jouer un homme.
Ah ouais ?
Mmh.
Pourquoi ?
Ben, parce que je pense que c'est l'une des choses que j'aurais le plus à construire, tu vois. Donc c'est un challenge de ouf. Et en même temps, en fonction du perso, il y a des trucs de ouf à créer, je pense. Ce serait fou, en fait. Ce serait vraiment dingo. J'adorerais ça.
Le rôle de la personne malade psychiatriquement, il y a un des clips, je ne sais plus lequel c'est, où tu fais des chorés, à chaque fois tu changes de perso.
Ouais, le monde en main.
Et il y a un des persos où justement tu as ce truc de lâcher prise, de folie, qui était très surprenant à voir parce que je pense que c'est la seule fois où je t'ai vu ne pas avoir le contrôle. Enfin, tu vois, être dans un truc de lâcher prise et donc c'est très surprenant.
Bah écoute, tant mieux. Moi, j'adore ce clip. On l'a chorégraphié avec Kif et Camé. Et j'avais trop envie de danser. Et en fait, ouais, Le Monde en Main, c'est une chanson bah, littéralement sur le patriarcat. Et j'avais trop envie de raconter plein de masculinités et plein de manières dont elles sont vécues. Et y compris ce degré de folie, quoi. Jusqu'où la masculinité toxique, en tout cas, peut aller. Et tous les angles morts des injonctions aussi faites aux hommes. Hein, parce que, encore une fois, le féminisme, le principe, c'est que c'est bon pour les femmes, mais aussi pour les hommes, en fait. L'idée, c'est de libérer un peu tout le monde et qu'on se foute la paix. À soi-même, hein, j'entends, chacun et chacune. Et du coup, de facto, à l'autre aussi. Mais ouais, j'aimerais trop, moi, jouer quelqu'un de taré, en fait. Je trouverais ça trop cool. En fait, moi, les gens malades psychiatriquement, c'est généralement des profils que je repère très vite parce que je suis familière avec ça. Et du coup, dans la vie au quotidien, je peux pas parce que c'est trop énergivore pour moi et du coup, je m'en protège beaucoup. Mais en revanche, ça a quelque chose d'extrêmement fort et qui me fascine, moi, vraiment. Parce que c'est un endroit du cerveau qui est pas construit comme tout le monde et ça donne lieu à un endroit du cerveau humain qui est pas calibré, en fait. Qui est pas calibré pour la société, tu vois. C'est une sortie de route. Et ça, c'est un endroit qui m'intéresse trop, quoi. Parce que du coup, il y a une liberté, mais folle. En fait, tu sors de tous les codes. Tu fais des dingueries. Tu fais que des dingueries. Et alors, c'est très violent, hein. Mais, et je pense que c'est pas cool à vivre du tout. Mais en revanche, à interpréter, je pense que ça doit être incroyable. Incroyable. Je rêve de pouvoir faire ça, ouais.
Comment tu sais que quand tu travailles un rôle, t'es au bon endroit, que t'as le perso?
Je pense que c'est beaucoup de conversations avec les réals quand ils sont disposés et disponibles à en avoir. Et je pense qu'à la lecture du scénario, tu te fais quand même une idée de la personne que t'as envie de raconter, quoi. Et de la personne que la personne qui réalise a eu envie de raconter en l'écrivant. Ouais, le travail commun, puis la documentation en fonction, tu vois, de quitter. Et puis je crois sincèrement qu'il y a un truc qui se joue dans les choix des scénarios que t'interprètes. Après, peut-être que c'est pas du tout le cas pour d'autres, mais moi je sais que ça marche vraiment comme ça. Il y a toujours un... Pour moi, les films, c'est comme des réparations, en fait. Il y a toujours un truc intime qui vient se réparer dans le scénario. Il y a toujours un endroit où le scénario vient se frotter à ton réel, en fait, à ce que tu traverses et à ce qu'il y a dans tes cellules, quoi, et à ce qui t'a marqué et à ce dont tu vas te servir pour pouvoir avancer dans cette histoire-là et ce que tu arrives à conclure en tournant le film. Donc c'est quand même toujours intime, tu vois. On parlait tout à l'heure d'être soi en musique et d'être une autre au cinéma, mais je crois que de manière peut-être invisible, beaucoup inconsciente pour certains, très consciente pour d'autres, je crois qu'il y a vraiment un truc de l'ordre de l'intime quand même qui vient se réparer toujours dans ces endroits-là, ouais.
Donc le fait que toi, tes rôles de rêve, ce soit un homme, soit quelqu'un qui n'est pas calibré pour la société, ça dit quoi?
Bah, plein de choses. Good one, Fanny Ruel. Non, ça dit plein de choses, justement. Ça laisserait plein de trucs à réparer, ouais. Ça laisserait place à beaucoup de réparations, clairement.
J'espère que l'épisode vous a plu. Il est assez court par rapport aux autres, je sais. Il y avait pas mal de retard dans son planning, donc on a eu moins de temps que prévu, ce qui m'a un peu perturbée. Donc j'ai survolé les sujets que j'aurais aimé creuser et tout. Et puis de manière générale, j'ai pas été très très bonne. Heureusement qu'elle a été brillante et a sauvé mes questions imprécises par des réponses vraiment intéressantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La réédition de son album Facile Fragile est dispo chez les disquaires et sur les plateformes. Pas mal de films dans lesquels elle a joué sont assez
assez simples à trouver en VOD. Et il y a notamment la série Irrésistible qui vient de sortir sur Disney+. Prochain épisode des gens qui doutent dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous bien sûr au podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, toutes les autres. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux @FannyRuet pour ne rien rater de la suite. Des bisous. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Cet épisode a été mixé par le fabuleux, le divin Maxime Moitieu.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.